Salut Luc.
Allô?
Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre une chorale chanter ton nom comme
ah,
ça?
Ah mon Dieu, c'est super gênant. En même temps, c'est enlevant. Ça arrive juste une fois dans une vie. Tout le monde autour de la table qui, lorsque c'était leur tour de faire entendre, de se faire chanter leur nom, était abasourdi.
OK. Parce que moi, j'écoutais, là, puis je t'ai gêné pour toi, là.
Oui, c'est un peu too much, là. En fait, je pense que c'est ça l'objectif, là. C'est comme un gros coup qu'il donne. Mais tu sais, Christian Bégin, lui, c'est un super. C'est un humain, super humain.
C'est bien ça, hein.
Il veut donner, oui, puis il veut donner comme un coup d'amour, puis de bienvenue aux gens qu'il reçoit. Mais comme on se salue de la main, maintenant on ne se sert même plus la main. Quand t'entends ton nom chanté par 10 personnes, ça fait toute une marche à gravir.
Et t'étais là pour parler de quoi?
De questions qu'ils m'ont posées spontanément là, sur un peu ma carrière, puis aussi surtout sur ma vision de l'environnement.
OK, t'as-tu un bon mot pour l'équipe du Québec maintenant?
Non, j'ai pas pensé. J'ai pas fait la promotion de notre équipe. Et remarque que j'ai bien fait. On n'en a pas besoin de promotion. T'as vu la progression incroyable des scores, tes scores cette année. C'est du jamais vu. Alors, je pense qu'on a la recette. Faut pas trop qu'on parle de nous. Les autres s'en chargent.
Parfait. Retour aux affaires sérieuses, Luc. Tu veux faire un petit parallèle entre le plan de relance du gouvernement du Québec et le projet de relance qui a été présenté là, par le fameux pacte hier?
Oui, c'est quand même amusant. Christian Dubé, le ministre du Conseil du Trésor, qui dépose son plan et a sorti ce plan-là de tout un paquet de mesures qui vont permettre d'alléger ce qu'il appelle les contraintes, notamment les contraintes environnementales. Lorsqu'on fait un pont ou lorsqu'on fait une route, il y a des questions à poser, il y a des questions d'environnement, il faut faire des études, etc. Et là, il propose d'aller, comme on est en exigence post-COVID, de créer des emplois, de se libérer de toutes ces contraintes-là. C'est un peu le contraire de ce qu'on aurait voulu dans le camp environnemental, de dire, on vient de vivre une grande crise, mais il y en a une plus grande encore qui s'en vient, qui est la crise de l'environnement. Pourquoi on ne se sert pas de la relance pour préparer cette grande crise qui s'en vient? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une relance qui va être aussi verte? Puis, je ne critique pas outre mesure le projet du gouvernement. Ils vont faire quand même des projets sociaux là-dedans, maisons des aînés, CHSLD, hôpitaux, etc., écoles. C'est pas un projet de droite, là. C'est super. Mm. Là-dedans, il y a quand même pas mal de projets de route. Il y a 202 projets qui ont été déposés dans cette enveloppe d'accélération. Mais il se trouve que c'est pas créatif, ça prépare rien, c'est pas structurant. Tu sais, dans l'histoire, après les crises, il y a eu souvent des mouvements structurants qui ont préparé l'avenir. Et ce que Dominique Champagne, puis Laure Varidel, et puis plein d'autres bons chercheurs ont rassemblé, c'est des propositions qui permettaient de l'environnement du style, là, vous êtes des gros méchants, puis si vous utilisez votre voiture, c'est... Regardons ensemble par en avant. Je pense par exemple à des grands projets d'infrastructures vertes. Par exemple, un grand projet de parc national ou un projet de plantation d'arbres le long des routes pour augmenter la canopée puis pour augmenter la biodiversité le long des routes. Là, il y a des corridors qui appartiennent au ministère du Transport un peu partout. Ils peuvent se servir de ces corridors-là. Ou l'élargissement des plantations des zones riveraines autour des rivières au bénéfice des agriculteurs, donc faites par les agriculteurs. Des subventions aux municipalités pour verdir leur ville, pour décontaminer avec de la phytorémédiation, c'est-à-dire avec la plantation d'arbres qui décontamine à la longue. C'est souvent le sol qui permet de faire ça. La protection des rives aux îles de la Madeleine, la protection des territoires, un chantier d'habitation. Tu sais, on a besoin de beaucoup de logements. Alors, il ne faut pas qu'on construise des bungalows dans les prochaines années. Il faut qu'on construise des appartements proches des cœurs de ville. Donc, revoir aussi le plan d'urbanisme des villes de moyenne taille comme Saint-Hyacinthe, Joliette, Saint-Sauveur, Saint-Jérôme, Percé-Gaspé. Pas Percé, c'est plutôt touristique, mais Gaspé. Toutes les villes du Québec, Drummondville, Victoriaville, il y a des dizaines et des dizaines de ces villes-là qui ont un intérêt, qui ont un cœur, qu'on peut vivre. On peut vivre à pied si on construit des appartements, puis pas des appartements comme on les construit actuels, des appartements pour les familles. Balcon en avant, balcon en arrière, traversant assez grand. Tu sais, revoir l'habitation, repenser l'habitation, repenser la distribution de monde entre Montréal et ces villes-là et la région. Il y a la réorganisation du travail aussi. Si le télétravail va avoir de l'importance, investissons dans les réseaux Internet pour qu'on puisse rester à la maison puis que ça ralentisse la congestion. Il y a toute la question de l'agriculture, développer une culture maraîchère proche des villes. on aurait pu imaginer des grands projets de pistes cyclables. Le réseau cyclable du Québec, il s'est amélioré d'année en année, mais il y a des grands axes qui ont vraiment donné des grands coups à la pratique du vélo. Je pense au petit train du Nord, je pense à la route des Bleuets, je pense à la route qui va de Edmundston au Nouveau-Brunswick au Bas-Saint-Laurent. On aurait pu dire, bon, ben, on va faire un grand effort de réseautage de ces pistes-là, puis ça va être possible de partir de Montréal jusqu'à Québec, jusqu'à je ne sais où, jusqu'à Saguenay, en vélo avec la famille, puis on va avoir une infrastructure hôtelière le long de cette piste cyclable-là. En gros, donc, des projets qui nous font rêver, mais qui nous préparent à un avenir peut-être moins rose, peut-être, avec plus de crises, plus de chaleur, moins de voyages. Pourquoi pas avoir préparé ça un peu?
Écoute, tu parlais de pardon, de densifier les habitations. Là. Tu dis, bon, ouais. Faut pas le temps de construire des bungalows, puis on peut se dire que c'est vraiment le fun d'avoir une maison avec de la pelouse, etc., mais ça vient avec un coût d'étalement urbain puis du temps perdu aussi dans le trafic. Je veux qu'on parle de Royal Mount, qui est à Montréal. Là. Oui. C'est un grand projet qui est sur le bord de la 40 entre les deux 15. Mm-hmm. Penses-tu que c'est l'occasion pour les promoteurs de se réinventer?
Oui, tellement. Le problème, c'est que comme eux l'ont fait comme un projet de spéculation, c'est-à-dire qu'ils ont acheté toutes les terres et ils ont détruit des bâtiments qui avaient une certaine valeur. Là, il y avait Ericsson qui était dans un édifice de plus de 10 étages là, qui a été détruit parce qu'ils se disaient, ben, on va faire la pièce en vendant du zonage commercial à des gens qui vont venir prendre des lots, etc. Ouais, ouais. Je suis pas certain qu'ils rentreraient dans leur argent, décontaminer tout ce terrain-là et faire de l'habitation plus écologique puis plus à dimension humaine. Je suis pas sûr que ça va marcher. Mais ça serait une excellente voie, en tout cas.
Mais écoute, de ce que tu as entendu des promoteurs, penses-tu que c'est possible? Parce que là, ce qu'ils veulent faire, c'est d'autres. C'est assez mixte dans le sens où, oui, il y aurait des habitations, il y aurait du bureau, salle de spectacle, mais aussi du pied carré aussi pour des centres d'achat. Si ce projet-là se transformait pour être davantage centré sur les habitations,
oui.
C'est-tu...
Oui, oui. Mais c'est parce que, oui, mais... moi, excuse-moi, tu me permettras, je vois tout le temps les problèmes et les limites avant de voir... Je vois les potentiels, mais je vois tout de suite les problèmes et les limites rapidement. C'est que si tu mets une épicerie, par exemple, si tu mets plein d'habitations, puis qu'au lieu d'avoir 12 petits magasins qui vendent des sacoches Louis Vuitton, tu mets une épicerie, tu vas faire beaucoup moins d'argent. Mais t'en as besoin d'épicerie, puis t'as besoin d'une fruiterie, puis t'as besoin d'un traiteur, puis t'as besoin d'un nettoyeur. Si t'amènes du monde, t'as besoin de ces magasins-là. Mais eux, ils paieront pas le prix que tu voulais vendre à un super centre d'achat de luxe. Alors, il va falloir qu'ils acceptent une perte, il va falloir qu'ils acceptent une réduction, mais de toute manière, ils en sont là. Il va falloir qu'ils trouvent... Parce que t'as raison de dire que il y a une multiplication de fonctions. Là. À partir du moment où t'as du bureau, t'as de l'habitation, t'as du commerce. Mais il manque pas grand-chose pour en faire un milieu de vie complet. C'est juste que le diable est dans les détails. C'est que c'est pas vrai que la personne qui habite dans un appartement puis qui travaille peut-être à côté va s'acheter une sacoche Louis Vuitton par mois. Ce qu'elle a de besoin, c'est plutôt une épicerie par semaine. Alors, donc, faut changer le mix puis il faut changer aussi le type de service qui va être donné. Alors, c'est là qu'il faut aller. J'espère que les promoteurs en ont la conscience de cette direction-là à prendre. Peut-être qu'ils sont capables de rentrer dans leur argent, sauver les meubles du moins, mais c'est une excellente idée.
OK, en terminant là, rapidement, notre devise nationale, Luc, c'est « je me souviens », mais la vérificatrice générale trouve que sur la question du patrimoine, là, les habitations patrimoniales, ben, on ne se souvient pas de grand-chose.
Ah, mais malheureusement, tu sais qu'il y a toutes sortes de lacunes effrayantes. On a vu, tu as vu passer là, les dossiers de démolition. Là, la ville de Saguenay qui en a démoli deux la semaine passée, ou enfin le mois passé, puis deux autres en 2018. Et puis, il y avait eu, te rappelles-toi, l'abbaye qui devait être démolie à Berthierville, qui a été arrêtée à la dernière minute. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de démolitions de maisons historiques. Une des plus vieilles maisons de toute la Gaspésie qui est passée au feu la semaine passée parce qu'elle était abandonnée depuis des années. Et là, on apprend qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'inventaire. Et les municipalités, le pouvoir a été redonné aux municipalités parce qu'il y a seulement quelques maisons qui sont jugées d'intérêt national. Toutes les autres, c'est intérêt local, mais ça peut être un intérêt local très, très fort. Quand tu dis la première maison de la Gaspésie, on s'entend qu'il y a un intérêt là, mais c'est local. Sauf que la municipalité n'a pas le budget pour le faire. Alors, on lui a donné la responsabilité, on lui a pas donné le budget, mais on lui donne même pas d'encadrement. On lui dit pas, vois-tu, cette maison-là, qui à tes yeux semble juste une vieillerie, C'est en fait une maison qui est typique d'une époque de colonisation extrêmement importante des agriculteurs dans la région de Drummondville ou de la Beauce ou je sais pas quoi, puis ça serait un drame de la démolir. Le maire qui prend la décision de la démolir, parce que dans certains cas, imagine-toi, sur le bord du Richelieu, j'ai vu ça, pour agrandir un centre, pour agrandir un stationnement à l'épicerie. Ben oui, il n'y a plus de place pour se garer. Les gens sont obligés de se garer dans la rue. On va démolir une maison historique pour faire un stationnement. Ou alors, pour agrandir, souvent, on rase une maison pour avoir, parce qu'elles sont au centre de grands terrains. C'était les plus grands terrains à l'époque. Et là, on va construire un centre de personnes âgées à cet endroit-là. On a besoin de ce terrain-là. Ben, construis-le juste à côté. C'est pas comme s'il manquait de terrain au Québec. Alors, donner des encadrements aux municipalités pour dire, voici ce qui a de la valeur et voici comment tenter de le protéger. Et aussi, mettre un peu d'argent. Parce que une municipalité qui doit s'occuper d'une maison historique, là, c'est très, très, très cher. Parce qu'à partir du moment où on s'en sert comme un usage municipal, il faut développer, il faut être aux normes. Il faut être aux normes d'accessibilité universelle, d'incendie, d'accès, de tout ce que tu peux imaginer, d'ascenseur, d'aération. La maison, rentrer tout ça dans une maison historique, ça coûte une fortune. Ça, on dépasse facilement le million de dollars. Ben, des petites municipalités ne peuvent pas faire ça.
Merci, Luc. Je t'arrête ici, mais je te laisse sur ces notes de sagesse.
Merci. Merci à toi. À bientôt. Luc.